c'est parti. Ok.
Alors, on est à quelle question, là? Y a-t-il un changement, transformation dans la démarche?
Pas nécessairement ça, mais disons, regarde, après 68, quand même, tu vas arriver au musée d'art contemporain. En 68, tu as eu ton livre, 72.
C'est ça.
68, tu n'as pas eu d'écrit majeur depuis ce temps-là. Puis 68? Non.
Il y a eu, c'était des Beckett en 73, j'ai été pris sur la rédaction de ça.
Des Beckett. Mais disons, dans le milieu des arts, ton geste principal.
Des
arts critiques, mais ton geste principal majeur sera plutôt ton arrivée au musée d'art contemporain. Et qu'est-ce que c'est, ça?
Le contemporain, je dirais, dans le contexte que j'ai posé là, je poserais que c'était un désir de poursuivre. C'est-à-dire, d'une certaine façon, que j'étais un petit peu écartelée, si on peut dire, entre mes intérêts dans le domaine artistique, mon intérêt pour la communication, mon intérêt pour l'implication dans le milieu, que je faisais à Châtelaine énormément. C'est bien sûr que lorsqu'on m'a proposé le livre de la contemporain, il m'apparaissait que c'était une espèce de synthèse de tout ça. C'était formidable. D'un coup, j'étais impliqué dans le milieu, possibilité d'intervention, possibilité d'intervention théorique, possibilité de réflexion. C'était apparemment la synthèse totale de tout ce que je voulais pouvoir m'intéresser. Mais c'est bien sûr que, comme tu sais, le musée de la contemporain à l'époque, c'est encore pire qu'aujourd'hui.
À toute époque.
C'était 72, hein, tu comprends qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas de personnel, il n'y avait pas de budget. Il y avait 250 000 de budget. Le budget de gestion, c'est 50 000. J'avais même pas chassé pendant 6 mois, j'avais même pas d'adjoint. Il y avait une personne, il y avait deux personnes qui étaient pendant ce temps-là. Il y avait une secrétaire, mais il n'y avait pas de.
Il y avait un comptable.
Il y avait un comptable, j'espère. Un comptable, agent d'administration, comme on dit. C'est un comptable, agent d'administration, c'est bien qu'il était là, mais qui était insatisfaisant du tout, du dépôt.
Tout le monde le sait. Mais après.
Bon, alors, tu vois que j'arrivais là, c'est, on peut dire, c'est. C'est sûr que si je suis allée, d'une certaine façon, évidemment, Guido me dit qu'il n'y a pas question d'aller là. Il n'y avait rien là. Il n'y avait rien là.
Sibérie, quoi.
Ouais. Alors, mais c'est sûr que moi, je me disais que c'était pas possible. Moi, j'avais vécu, donc, dans les années 50, ce besoin, cette nécessité qu'il y ait un musée de la contemporain à Montréal, avec les problèmes avec le musée des Beaux-Arts, qui faisait rien, qui était con, blablabla. C'était pas possible, ça qu'on avait voulu, qu'on avait demandé, puis tout le monde ensemble, on avait réclamé, je dis là qu'on en parle, qu'il se passait rien, c'était pas possible que moi, ils m'ont dit au ministère que j'avais pas été là, c'était devant tardive, ils m'ont dit, j'avais pas été là, j'ai eu une remis à fil d'air. Ils voyaient pas comment ils pouvaient faire quelque chose, ils ne tenaient pas d'argent, ils prétendaient que ça n'intéressait personne, c'est une petite chapelle qui servait de ça. Avant que j'arrive, hein, et il n'y avait rien à faire avec ça, ça peut là, là. C'est peut-être pas la dernière chose, mais de toute façon, je vais vous montrer ça. Moi, je ne peux pas admettre qu'on ferme ça. Dans la position où j'étais, d'impliquer dans le journalisme, dans le mouvement, dans le milieu, c'était-tu possible, pas possible, avec mon intérêt pour les arts visuels, les communications. Donc, je suis allée là, puis il était question de reconstruire une musique complètement, d'essayer de donner les moyens de vie.
10 ans plus tard, on en parle.
On en parle encore. Moi, quand je suis arrivée, ma condition d'emploi, si tu veux savoir, c'est qu'on déménage la musique. Puis j'accepte le poste à la condition qu'on déménage le musée au centre-ville. On m'a dit, ce sont nos projets.
Ce sont toujours leurs projets,
c'est toujours nos projets. Donc, c'est ça. Alors, c'est bien sûr que. Alors, le musée, tel que je l'ai vu, un peu à partir peut-être de mon travail dans le journalisme, il est certain que j'ai posé. Qu'avant tout, le musée, c'était d'abord un médium d'information. C'est-à-dire que j'ai posé que le milieu québécois était complètement analphabète sur le plan visuel par rapport à l'art du 17e siècle, qui n'avait jamais rien vu, sauf des petites affaires qui arrivaient de temps en temps comme ça. Le musée des opposants. Sans désintéresser, avec quelques expositions de temps en temps, il y avait quelques expositions qui venaient, on ne sait pas trop où, dans les galeries personnelles. Simplement que j'ai posé simplement que le milieu québécois, ou le milieu canadien, on n'avait pas ce que dire, même chose, n'avait jamais vu d'accord.
Et par art contemporain, tu entends,
disons. 1908.
Ah oui, pas gros.
Ça, je n'ai jamais vu à Montréal. On n'a jamais vu d'exposition qui pèse à Montréal. On n'a jamais rien vu. Qu'est-ce qu'on a vu ici? Les premières expositions Bauhaus, j'ai vu quand j'étais au musée de Brandenburg dans les années 70. Qu'est-ce qu'on avait vu? On n'avait rien vu. Pendant ce temps-là, les artistes se développaient de leur côté à partir d'une information qu'ils allaient chercher eux-mêmes, d'une pratique et d'une réflexion, d'une information qu'ils allaient chercher dans des revues, dans des voyages, dans des musées externes. La population du Québec n'avait jamais rien vu.
Donc, ton premier souci était d'ouvrir le milieu québécois à l'art qui se faisait.
L'information sur l'art du 20e siècle.
Beaucoup plus, peut-être, que l'art, que de simplement être un publiciste pour l'art du Québec, mettons, fait au Québec.
Ben, je. Dans,
en priorité, je
comprends. Ben, c'est la même priorité pour moi. C'est la même priorité, simplement, qui est que l'art du Québec, quand on le présente, il est possible d'avoir plus de. C'est juste du marketing. Mm-hmm. C'est bien sûr que si on parle de Bordua, on devrait s'imaginer qu'il y aurait plus du monde au vernissage que si on fait les constructivistes polonais. Ouais. C'est du marketing. Ça. C'est, on sait bien que la fibre nationaliste, il y a un petit peu de dissémination qui fait que si on parle de Pellant, on parle de Dumouchel, si on parle de Bordua, il y a peut-être quelqu'un qui a entendu parler de ça par hasard. Mais par hasard, moi j'ai eu des diplômés qui sont venus chercher des gens au musée des Beaux-Arts qui sortaient du CAM. Ils n'avaient jamais entendu le nom de Dumouchel. On n'a beau pas aimé Dumouchel. Exagéré.
Je peux te donner qu'il y a eu des diplômés de l'Université de Montréal dans ma classe qui n'avaient jamais entendu parler de Mondrian. Je ne sais pas comment ça s'est fini.
C'est comme moi aussi dans mes cours en dernier. Baptiste. Madame, comment ça s'écrit ça?
Mathis, comme Cézanne, monsieur.
Tu t'appelles les Sitski, hein? Tu regardes un chat, comment ça s'écrit, ça?
Mais l'action quand t'arrives là, c'est ça, c'est d'ouvrir le musée, pas ouvrir.
Moi, d'informer le public québécois de l'art du 20e siècle. Mm-hmm. Évidemment, ça posait une question au niveau des définitions. Alors, on s'est fait une entente au niveau de la collection, puis des expositions. Qu'au niveau des expositions, on était libre. Là aussi, on ne voulait pas que ça emmène comme compétition. On voulait s'en mêler. Au niveau d'exposition, si on pouvait arriver à avoir des expositions intéressantes qui n'avaient jamais été vues dans le milieu, qu'on les ferait venir même si c'était avant 1940, mais qu'on restait au niveau de l'acquisition au niveau de 40, autour de 40, 39.
Donc il y a eu un Mathis qui était un peu croche.
Oui, c'est un peu croche. Hein, c'est ça. Il y a des choses qui sont un petit peu croches, hein, entre temps, comme ça, mais ça, c'est faut pas ça.
Et maintenant, on est après le fait, c'est quitté.
Et maintenant, ça, c'est, mais toute cette information-là, elle n'a pas été faite. Ça n'a pas été encore fait. Les gens n'ont jamais rien vu. Ils n'ont rien vu, le monde, ici. C'est impossible qu'ils puissent se relier à l'art contemporain qui se fait au Québec aujourd'hui. Ils n'y connaissent rien. C'est comme leur demander de lire la littérature actuelle, ou le roman actuel, ou les œuvres actuelles. Ils n'y comprennent rien. Ils ne pourront pas y comprendre tant qu'ils n'auront pas vu. Et puis là, on ne peut pas les amener de force non plus. Hein. Il y en faut, puis il y en faut l'exposition. Hein. Enfin, qu'il y a quand même, je sais pas, une dissémination qui se fasse. Alors moi, j'ai vu ça essentiellement comme un médium d'information. Mm-hmm. Aussi bien de l'art international, comme je dis, et de l'art québécois. Puis ça, comme je dis, nous voulons que le musée vive. Et c'est sûr qu'on se disait, ben, si on n'a rien des œuvres d'avant-garde, rien pour ça. On a barré de voir, mais qu'on a bien personne, les vernissages, c'est splendide, il y a trois étoiles. Mm-hmm. Dans le musée, en même temps, on sait quelque chose qui pourrait avoir de l'attrait. Du marketing, du journalisme. Hein. Mais maintenir les deux propositions quand même, qu'à l'intérieur québécois aussi, les questions qu'on se rend compte, des choses qui sont faites. Dans 50 ans, ça va être valorisé, ça, mais on voudrait au moins que l'autre, 20 ans après, qu'on sache ce que c'est fait. C'est pas d'agir pour le monde. Les gens
passent par là. Mais comment évalues-tu l'expérience maintenant qu'elle est terminée?
Ben, ça dépend pour qui.
Mais pour toi.
Pour moi, c'est le cadet des soucis de la société. Ben moi, ça n'a pas été une expérience tellement fructueuse pour moi. Pour moi. Parce que j'ai tellement travaillé que j'ai tellement travaillé sur le plan matériel. Des choses, on montait des expositions nous-mêmes, on faisait tout. Ça ne dit pas, je sais ça, avec un parent, 5 ans, 30 expositions par année. Mm-hmm. Puis ça paraissait pas trop mal. Les catalogues sortaient juste dans une salle, nous autres.
Dans ce temps-là.
Dans ce temps-là, peut-être.
Sauf la sculpture.
Non. Non, mais en général, on avait établi cette... on avait changé la tradition derrière, et puis on faisait ça dans une semaine, on faisait ça ailleurs, on travaillait tout le temps, 7 jours par semaine. Puis donc, c'était difficile, les assurances, les transports, les vérifications d'œuvres, les comités d'acquisition, j'ai monté ça, moi, quand je suis parti, ils ont donné 150 000 $ d'œuvres par année au musée. Toujours, hein, on était là, aussi. On allait chercher partout. Hein, qui regarde un art, même si c'est 135.
Mm-hmm.
Hein? C'est compliqué, là. C'était pas encore des personnes qui pensent aux structures, puis ça veut pas tout. De toute façon, c'est contemporain.
Mm-hmm.
Alors, on allait chercher tout ce qu'on pouvait trouver, on n'avait pas de moyens, évidemment. Alors, on travaillait énormément. Moi, j'ai travaillé énormément. Ce que ça a donné, comme je te dis, j'ai l'impression peut-être que ce que ça a le plus donné, c'est au niveau des artistes. Le public lui-même, ça a eu bien difficile d'estimer à quel point il y a eu une éducation du public qui a été faite telle que je le souhaitais. C'est ça que je souhaitais. Nous, on a monté beaucoup la fréquentation. C'était 50 000 quand je suis arrivée. On a monté ça à 115 000 en 3 ans, en 4 ans. C'est pas si mal. Ça aurait pu continuer. Pour moi, on aurait pu atteindre 200 000. Avec une bonne politique, par exemple, astucieuse, hein?
Mais
il faut ça, hein? Il faut ça. Mais à ce niveau-là, c'est un succès, disons. Mais 115 000, c'est pas encore de tout Montréal, hein, ni de tout Québec.
Ouais.
Alors, tu comprends, c'est graduel, tout ça, hein. Il y a eu un certain succès. Mais je dirais que peut-être l'impact le plus grand, c'était l'information qui était portée au milieu des arts, des artistes. C'est-à-dire que les expositions qui ont été là, je pense, ont marqué énormément le développement de l'art québécois.
De quelle façon? Quelle exposition? De quelle façon?
Ça se dit pas, on a pas encore une colonel depuis l'exposition. Mais non, on a fait l'exposition des Américains, les autres, on a je ne dis pas qu'ils n'ont pas vu à New York avant. Hein. Mais disons qu'il y a eu un impact parce que étant là, c'est plus
étant
proche, hein, étant là, puis les gens peuvent le revoir, et puis une discussion qui se fait à ce propos-là. Hein. Il y a beaucoup plus de possibilités, donc, de mise en question, de réflexion sur les œuvres lorsqu'elles sont devant dans l'idée. C'est pour ça qu'il y a un texte pour le musée de la première fois. Alors, je pense que c'est au niveau des artistes, si on analysait la liste de quoi, je pense qu'à ce niveau-là, je pense qu'on verrait comme l'impact que ça peut avoir sur les études de l'art québécois. Il doit vraiment être introduit dans la conceptuelle. On a présenté des cultes, on a présenté des discussions d'environnement, on a introduit donc les formes d'art. C'est available, hein, aussi bien.
C'est quoi des expositions marquantes qui auraient à contenu québécois qui seraient organisées par ces pays-là? Ou à une ministre, je ne sais pas.
Mais je n'ai pas revu la liste récemment.
Non, mais dans de mémoire. Quelle exposition genre, t'as plus, t'as fait plus plaisir, quoi?
Ben, moi, c'est pas comme ça que je vois ça. Moi, je vois ça dans une dialectique de diffusion et d'information. Chaque élément, on le fait parce qu'on ne peut pas le faire autre chose parce que ça a déjà été fait. Il s'agit de faire ceci avant de faire cela. Il y a des considérations chronologiques, il y a des considérations de tout genre. Il y a une exposition très belle, une exposition de dessin très belle. Je pense que c'est une exposition qui a marqué beaucoup de jeunes artistes. À part ça, il y a eu, je ne sais pas, l'exposition, je veux dire, du Time Magazine, qu'on n'a pas organisé, mais parce que j'ai organisé la section québécoise, moi, je pense que l'exposition qui a été intéressante.
Elle était pas mal contestée, celle-là, l'exposition du Time Magazine.
Contestée à quel niveau?
Il me semble qu'on a chiré dans le milieu.
Mais ça empêche
parce
pas.
Parce qu'il y en a qui, des artistes qui avaient refusé de participer là-dedans.
Time Magazine?
Si. Daniel, était-il là? Donc,
il parlait
des individus qui n'étaient pas là.
C'est pas une autre manifestation. Il a refusé de participer avant même que l'exposition soit montée. Il a probablement fait l'exposition, c'est le principe. Mais les tableaux qui ont été montrés là représentaient, je pense, ce qui se faisait au Canada, de toute façon, assez à date. si on peut dire. Mm-hmm. C'est tout ce qui se faisait, et je n'ai pas senti un certain impact.
Mm-hmm. Et est-ce que toi, t'as, disons, l'expérience, ces expulsions-là, et l'expérience, je ne dirais pas au niveau administratif, parce que là, c'est sûr que oui, t'as appris beaucoup. Mais est-ce que c'est, l'expérience de directrice du musée d'art contemporain a changé ta perception de l'œuvre d'art, ou tes perceptions, ton approche à l'œuvre d'art, ou tout simplement,
tu continues? C'est impossible ce que tu dis.
C'est impossible.
C'est impossible ce que tu dis. Parce que
non, mais je veux dire, est-ce que le fait d'organiser des expositions, tu l'avais déjà organisé en 1953, mais...
Ben non, pour moi, c'est
une... Non, c'est une question qui ne se pose pas pour toi, ça.
C'est pas que ça ne me pose pas, je me suis aperçu que ça ne me donnait rien.
OK. Ben oui.
C'était tellement de travail que tu n'as plus aucune disponibilité pour voir le chef. C'était pour dire, je passais mon temps pour le comité d'acquisition, pour mettre dans les galeries et les ateliers, pour les expositions à les bas des ateliers. Dans ce contexte-là, tu ne peux plus les voir.
Tu ne peux plus les voir.
Tu regardes quoi? Tu regardes. C'est tout ça qu'on veut présenter en ce moment-ci, parce qu'on cherche quelque chose dans l'art conceptuel, on cherche quelque chose dans l'art cinétique, on cherche quelque chose dans l'art environnemental, ça marche toujours.
Ça, c'est presque remplir un calendrier. Le job premier, c'est de remplir un calendrier.
Oui, mais le calendrier, c'est mieux que l'établissement, par exemple.
C'est ça, mais oui, mais le travail...
Oui, mais c'est un trait au niveau théorique, ça. Mm-hmm. Le niveau théorique, ça ne s'apprend pas, ça ne prend pas nécessairement grand-chose, les œuvres d'art. Les œuvres d'art, ça prend quand on vit.
C'est pour ça que tu as quitté pour aller presque à Laval et après à l'UQAM.
Pour revenir, revenir davantage aux œuvres d'art, avoir la possibilité de les voir, les expérimenter, et faire la recherche que c'était impossible à faire dans un contexte administratif de diffusion. On ne peut pas tout faire en même temps. Comme Chapelaine, tu ne peux pas faire la recherche sur aucun des problèmes dont on traitait dans Chapelaine. Tu ne peux pas faire de recherche quand tu es pour Chapelaine. Ben ça, c'est un niveau intermédiaire de diffusion. La recherche dans un autre monde, il ne faut pas la faire. Quoique, il est certain que j'ai été obligé, si on peut dire, les catalogues que j'écrivais, j'étais obligé d'écrire, parce qu'il y en avait bien écrit, hein?
Mm-hmm. Puis ils étaient nombreux aussi.
Ils étaient nombreux, qui paraissaient à peine, je prétendrais. Est-ce que c'est très différent de la critique d'art? C'est très différent de la critique d'art. Non, parce qu'a priori, il n'est pas question
de tout foutre en l'air.
De, non pas une somme, mais les réserves profondes qu'on peut avoir, personnellement, si je joue ça comme ça, je peux être bête, peut-être imbécile. Et moi, je me dis, si je faisais une exposition, c'est pas à moi d'aller signaler les restrictions qu'il faut poser à ces œuvres-là. Si on les expose, c'est pour toutes sortes de raisons. Nombreuses sont toutes impliquées dans le milieu, dans l'époque, dans ceci, dans cela, dans la possibilité de ceci et de cela. Mais, pas à moi d'aller dire, si moi. Moi, je ne peux pas dire que j'étais loin de là, pleinement d'accord avec les œuvres que j'exposais, ce n'est pas la question. Je ne pouvais qu'être d'accord pour les raisons pour lesquelles je trouvais qu'il fallait le présenter au public. Je n'avais pas dit que moi, comme
c'était un. C'était un. Troisième musée est un outil, quand tu es en poste, de communication.
C'est un outil de communication. Je l'ai toujours vu comme ça, je n'ai jamais posé autrement.
Et pour toi, ce n'est pas un outil de réflexion, c'est un outil de réflexion
donc,
pour les
j'étais bien obligé d'en faire un peu, comme je te dis, quand je suis obligé d'écrire un texte, j'en posais, il vient pas tout seul le texte. Hein. Mm-hmm. J'ai dû quand même s'investir un petit peu, regarder les œuvres, essayer de trouver quelque chose, hein, si on ne peut pas copier ce que tout le monde a dit. Mais c'est minime, c'était une partie infime, puis la plus grosse pression était pour faire tout le reste. Le reste, c'était incroyable, comme quantité de travail, extraordinaire. Alors, ça m'a fait connaître un peu le milieu des artistes. Bon, on dira ça. C'est tellement ridicule, tu comprends? Mais quelqu'un des artistes, pour autant, qui sont mégalomaniaques, qui sont jaloux, qui ne savent pas se décider, qui viennent dans la salle d'accrochage, puis qui changent 5 fois, puis qui ne savent pas, puis qui se trompent d'ailleurs. Ils se trompent sur la façon dont ils que l'accrochage soit fait, ça ne leur servira pas. Il faut que tu discutes avec eux, puis c'est bien compliqué. Il faut que tu les adoucisses, puis tu les prennes comme ci, comme ça, pour arriver toi à avoir une présentation qui te trouve. Si tu penses que ça, c'est acquérir quelque chose...
J'ai fait le travail, je dirais que...
Non, pas serait. C'est ça que ça nous apprend à communiquer des études sur what. C'est du ça. C'est comme journaliste. C'est d'être capable d'établir des relations, de faire ce que tu veux avec les gens, d'être capable de... Mais ça ne donne rien, ça ne donne rien, ça.
Est-ce que l'enseignement te donne plus?
Non. Ah, ça, c'est beaucoup plus. Beaucoup plus. Ben, disons que ça me... C'est que l'enseignement, d'une certaine façon, ça permet de réaliser tous ces désirs de recherche. Il n'y a pas de limite posée par quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, à ce niveau-là, vous ne pouvez plus parler, c'est trop abstrait. C'est tout le contraire. C'est plus tu t'investis dans ta recherche, peut-être un peu difficile à un moment donné, je peux croire que tes étudiants trouvent ça difficile. Finalement, tu arrives à le maîtriser, à l'approfondir assez pour tous les moyens de communiquer. Tu peux continuer avec ta propre recherche, ce que tu ne peux pas faire obligé.
Est-ce que ça veut dire que depuis que tu enseignes, présentement, le prochain livre s'en vient?
Non. Bien oui, c'est ça qui est arrivé. Disons que le problème majeur que j'ai eu au musée de l'art contemporain, lorsqu'on a eu des expositions de l'art contemporain, surtout l'art québécois, évidemment, c'est qu'on n'avait aucune documentation accessible, aucune analyse des œuvres, rien qui nous permettait, nous, d'un coup, d'accoucher d'un texte de présentation. Hein? On a le journal atelier qu'on publiait, on voulait expliquer au public que c'était les œuvres là-dedans. Et pour les œuvres d'art international, finalement, il y avait un petit peu de présentation. Mais pour l'art québécois, il y avait rien. On arrivait les uns après les autres à rien. Un, deux articles de journaux de revues. Pas grand-chose. Et de plus en plus, j'avais pensé, moi, que l'investissement dans la recherche sur l'art québécois, c'était la chose qui manquait. Parce que moi, je me disais, ben, c'est anormal que nous autres, on fasse ça dans les musées. On n'avait pas le temps de faire ça. Je disais, ça devrait se faire dans le milieu universitaire. Ça ne se faisait pas. Mais j'ai dit, moi, je vais y aller dans le milieu universitaire. Puis on va stimuler la recherche sur l'art québécois. Parce qu'on n'a pas la responsabilité d'une réduction avec un autre secteur. On va faire la recherche dans l'art québécois. On va arriver à constituer une réflexion critique sur ce qui s'est passé. Dans le milieu, il n'y en avait pas. L'UQAM n'a jamais rien fait. Je me suis montré rien qui intéressé à Fred Bourdieu, c'était pour les Américains. À Laval, il n'y avait rien. Quand je suis arrivé à Laval, tout de suite, j'ai formé un groupe de recherche en art contemporain du Québec. En deux ans, il fonctionnait un petit peu. Donc, à l'UQAM, là, on reprend, donc, mais en même temps, moi, disons que j'ai un peu approfondi, si on peut dire, toutes les hypothèses de sémiologie dans le domaine de l'art visuel. Ça fait trois ans que je dirige un groupe de recherche là, à l'UQAM sur la sémiologie des arts visuels. Et je pense, finalement, qu'on va déboucher sur une théorie du décodage de l'art visuel. Moi-même, personnellement, j'ai une page de déjà 300 pages. La soumission d'une hypothèse de description sur le plan syntaxique de qu'est-ce qui se passe dans le domaine visuel, dans le langage visuel, qui n'a aucun rapport avec les structures du langage verbal. Le langage verbal est linéaire. Par définition, les mots se succèdent les uns aux autres. C'est une dimension. Mm-hmm. Bien sûr, le référent n'était pas linéaire, mais le langage est linéaire. Mm-hmm. Et se fonde sur l'identité, sur la substance, le sujet qui fait quelque chose, mais ça ne change pas beaucoup. C'est quelque chose qui s'ajoute à lui, sur son action, son prédicat, ça s'ajoute, mais ça ne change pas tout à fait. Moi, je pense que tout le langage visuel n'est pas de cette manière, il n'est pas linéaire. C'est la première chose, sur l'a déjà dit. La grande différence entre le langage verbal et le langage visuel, c'est que le langage verbal est linéaire, le langage visuel est spatial, il y a trois dimensions. Et le grand problème, c'est comment on va décoder ce langage-là. Comment le décoder? C'est facile, le langage verbal, mais le sujet, le verbe, le tenu. Mais dans un tableau, où on va? Est-ce qu'on parle de ça qui est à gauche, ça qui est à droite, ça qui est en haut, ça qui est en bas? C'est un langage qui est tridimensionnel et en profondeur. Et on ne peut pas l'analyser avec les structures qu'on connaît, avec les lois d'identité du sujet, de l'action. Dieu sait comment Dieu peut aller écrire une loin dans ça, comme tu sais. Avec Louis Marin, il va aller beaucoup plus loin. Qui va nous décoder dans ce tableau ce qui est de l'ordre du passé, ce qui est de l'ordre du futur, mais ce qui est de l'ordre du je, ce qui est de l'ordre du tu, parce que Dieu est le même tableau. Et ensuite, toute la sémiologie rhétorique, il y a un grand représentant ici, qui va nous dire quelles sont les grandes figures de la rhétorique, de la rhétorique verbale, que l'on va retrouver dans le tableau. depuis la parodie jusqu'à l'ironie, l'hyperbole, donc toute la sémiologie narrative en France qui est née, on peut dire, de la diversion que Barthes a fait, une hypothèse sémiologique disant que le sens, les structures du langage visuel ne peuvent être que celles du langage verbal. On en a les heureux fruits maintenant. On prend la rhétorique, on prend la grammaire, on prend les structures de la grammaire, on essaie de les retrouver dans le tableau.
Mm-hmm. Et sur quelle base?
Sur la base que ce n'est que le langage verbal, ce n'est que ce qui est nommé par le langage verbal qui peut être un référent.
Mais je veux dire, la base de ta recherche est où, toi? L'antécédent de ta recherche. Qu'est-ce qu'il y en a?
L'antécédent, je dirais peut-être Panofsky dans un seul ouvrage, parce que Dieu sait qu'il est grand responsable aussi du blabla sur la peinture, par ses niveaux de symbolisme qui sont tout empruntés au texte de la culture. Mais ces fameuses, perspectives comme forme symbolique. Dans cet ouvrage-là, Panofsky montrait donc que la structure de la perspective linéaire à la Renaissance était une forme symbolique qui exprimait donc un certain nombre de données spécifiques qui répondaient donc à des positions vis-à-vis de la réalité du monde, de l'individu, tout à fait différentes de la forme de perspective qui était utilisée en Grèce, par exemple, où on posait que l'espace était sphérique. Et où la représentation de l'espace se faisait à partir d'une notion d'espace sphérique. Donc, ce n'est pas pour rien donc, qu'on peignait sur des vases, c'est parce qu'en effet, on pose l'espace sphérique. Et dans les tableaux aussi, dans d'autres types de civilisations, l'espace et le byzantin, évidemment, la perspective peut être axiale, peut être frontale. C'est-à-dire que chaque perspective est en réalité une espèce de somme. De somme de la façon dont on organise le monde par rapport à nous. C'est un point de vue, parce que c'est toujours un point de vue à travers lequel on organise les choses. Alors, dans la perspective linéaire, organise le monde à partir de la notion de distance lointaine. De vouloir valoriser l'expérience d'objets qui sont dans une distance lointaine, c'est un choix. Hein? C'est un choix. Il y en a d'autres qui voudraient peut-être plutôt davantage parler d'une perspective par rapport à des objets qu'on va sentir comme proches, ou comme immédiatement loin. Mm-hmm. Et lorsqu'on pose quelque chose comme lointain, on a pris une position affective vis-à-vis de lui, du style de le mettre loin, premièrement. Et si on le met loin, ça veut dire qu'on ne veut pas le sentir à partir de notre corporealité, ni de la sienne. On ne peut pas le sentir par la plupart de nos moyens de perception sensorielle, qui sont aussi bien l'odeur que les possibilités de calorie, les possibilités de kinesthésie. C'est tellement loin qu'on ne veut même pas être touché. Donc l'objet qu'on pose loin, on veut le définir peut-être à partir de la seule possibilité qu'on a de déterminer un objet lointain, qui est l'organe de la vue. L'organe de la vue, c'est une façon d'organiser la perspective dans un tableau. Mais moi, je pose... Donc, à partir de Piaget, que l'organisation, que l'espace est quelque chose de pluriel et qu'il y a plusieurs espaces et qu'on organise plusieurs sortes d'espaces parce que l'espace, c'est simplement la coordination entre un ensemble d'éléments multiples. C'est ça l'espace. Donc, dans notre perception du monde, par la kinesthésie, par nos organes sensoriels différents, qui sont le tac, on a peut-être six, comme disait quelqu'un, on a six organes de tac différents, ceux qui perçoivent la dureté et la résistance, ceux qui perçoivent le mou, ceux qui perçoivent le lisse, d'autres qui perçoivent les accidents de forme. Donc, on a toutes sortes de possibilités d'organiser l'expérience à partir du tac. On a l'ouïe, qui, lorsqu'il entend des bruits, a organisé ces expériences-là, donc dans des paramètres différents de ceux de la vue. Parce que lorsqu'on est dans un espace proche, c'est pas la vue qui est l'organe prépondérant. C'est beaucoup plus, disons, la perception des textures fait que tout l'être s'investit dans une confrontation immédiate où il serait possible d'agir. Donc la kinesthésie la possibilité d'imaginer quelle espèce de mouvement, de préhension et de traitement on pourrait avoir de l'objet est plus fort dans la perspective proche, la perspective lointaine. Au point où dans la perspective lointaine, on n'a presque pas de possibilité d'imaginer qu'on pourrait intervenir. Finalement, le moyen, la Renaissance a posé tout ça.
Penses-tu qu'il y a une influence et une interférence très forte de la diapositive, parce que dans l'histoire de l'art, bon Dieu, maintenant, ou de la photo.
Mais la diapositive évoque tous ces espaces-là, parce que tous ces tableaux, les tableaux évoquent tous ces espaces-là. Mm-hmm. Dans les tableaux, on a des objets, même à la Renaissance, ou chez Rembrandt, ou chez d'autres, ceux qui ont contesté la perspective linéaire, ils ont posé des objets qui sont expérimentés, donc dans des distances différentes, ça veut dire selon des modes sensoriels différents. Mais les espaces dans lesquels on peut coordonner les expériences qui viennent de modes sensoriels différents ne peuvent pas être structurés de la même façon. L'espace dans lequel on peut mettre ensemble tout ce qui nous vient de Louis n'est pas le même espace que celui dans lequel on peut mettre ensemble ce qui nous vient, par exemple, de l'espace thermique. Mais ce qui nous vient de Piaget. L'espace thermique, on peut dire, ben voyons donc, c'est pas si important que ça, de savoir si c'est froid, si c'est chaud, si... Bon, c'est peut-être pas important, mais il demeure que quand on se trouve devant les tableaux, il paraîtrait qu'il s'agirait que c'est bien important de savoir si les couleurs sont froides ou chaudes, si le recul ou si elles avancent. Ou qu'un tableau, les gens, simplement, se reculent devant un tableau, ça, on n'aime pas ça, c'est froid. Je m'appelle la réaction de l'abstraction géométrique. C'est froid, hein? Donc, c'est des expériences donc fondamentales avec lesquelles les individus structurent la réalité qui, d'après moi, vont trouver leur expression dans le domaine visuel, tout simplement parce que le domaine visuel, le langage visuel, c'est le seul qui peut organiser des spatialités. Le langage verbal est incapable, puisqu'il est linéaire. Mm-hmm. Et le langage visuel, c'est lui qui est capable de former des spatialités qui vont avoir référence, pas rien qu'à la vue, mais à tous les espaces d'expérience, c'est-à-dire tous les lieux dans lesquels il faut mettre ensemble des stimuli différents qui appartiennent à des niveaux d'expérience sensorielle différents.
Mais quand tu parles du langage verbal, parles-tu du langage verbal écrit seulement ou aussi exprimé?
Quand je te parle...
Là, quand tu parles des trucs rock et ces histoires-là, c'est rendu un point
toi,
maintenant.
La musique, là, je
sais. Oui.
La musique et le langage verbal, c'est pas pareil, mon ami. Je pense que c'est pas du tout la même chose. Le langage verbal, c'est pas la musique.
Je viens de le faire dire.
Oui, non, la fusion des arts, c'est un autre problème que le langage verbal. Mais le langage verbal, pour moi, c'est le langage verbal. OK? Mm-hmm. Si tu me parles d'un langage verbal qui est apposé dans le cinéma, dans le théâtre, dans le rock, on a plusieurs types de...
Bonjour!
Dans une structure spatiale d'un autre type, c'est plus le langage verbal. Parce que sa propre structure n'est plus déterminante dans le sens. Mm-hmm. C'est comme, par exemple, une photographie où il y a trois mots en dessous qui s'incorporent supposément à la présentation de l'objet. C'est une détermination linéaire.
C'est du dos qui va passer ta pente, c'est ça?
D'accord. Okay. C'est une détermination linéaire qui est le monde du langage verbal que tu dois mettre en relation avec une structure trois dimensions. Mm-hmm. Comment tu vas faire pour mettre ça en relation? C'est ça qui est le problème, de l'intégration d'espace. Et c'est juste que le langage verbal n'a aucune possibilité de structurer un espace, à moins du coup de dé de Mallarmé. Il faut le mettre, on va faire du dessin avec les mots. On va lui donner une structure spatiale, comme un dessin, on va mettre des mots là, gros, petits, des grosses minuscules, des caractères différents, on va en faire un dessin. On va lui donner une structure tridimensionnelle comme le dessin. Oui. Évidemment, c'est bien pauvre aussi. On sait bien que le dessin a toute autre possibilité que ce que Mallarmé pouvait faire avec ses petits groupes de mots. Hein? C'est pas parce que le langage visuel est autrement plus riche que ça. De toute façon, il a essayé, lui, de faire éclater la dimension linéaire.
Il remarque que c'était surréaliste, c'était jouer là-dessus aussi.
Ils ont joué là-dessus, c'est sûr, mais ça ne veut pas dire que c'était réussi. Ça ne veut pas dire que le langage linéaire est devenu tridimensionnel. Hein?
Mais vu qu'on va guider où s'en vient, il faut aller vite un peu. Quand tu parles de cette entreprise de décodage de l'œuvre d'art, est-ce que ton corpus avec ton groupe de recherche est d'abord fait d'œuvres québécoises, surtout seulement fait d'œuvres québécoises, ou Je pense que non, parce qu'il me parle maintenant de Rembrandt, il me parle de ça.
Ah non, c'est toutes les œuvres qui nous permettent de comprendre de quoi il s'agit dans le langage visuel. C'est pas limité à autre chose. Bien qu'éventuellement, il y aura peut-être un projet de recherche qui va se faire, étant donné les conditionnements nationalistes, il faut absolument pas venir à Québécois, il est possible que le groupe travaille sur Pélan. Il y a un gros travail de décodage sur Pélan, de Il est possible donc que tout simplement pour pouvoir avoir des subventions aux étudiants qui travaillent là-dessus, qu'on travaille sur Pélan. Mais en réalité, le travail de sémiologie se fait à partir donc, d'une réflexion qui essaie de se vérifier à partir d'œuvres donc qui peuvent être devenues. Et alors, continuer à travailler sur des travaux tantriques, comprendre qu'est-ce que c'est que l'unisme et les monochromismes qui sont faits et l'avant qu'il y a les autres, etc. On essaie de voir l'art visuel sans préjuger que le seul art visuel, c'est l'art de la Renaissance. C'est-à-dire qu'à partir d'hypothèses sur ce que peut être les structures spatiales, structures visuelles. Et l'autre élément aussi, qui est un peu la clé un peu de mon orientation, c'est que je pose que lorsqu'il s'agit d'un langage visuel, donc un langage lorsqu'il s'agit de parler de spatialité, qui est la coexistence actuelle de nombreux stimuli dans les trois dimensions. C'est ça le langage, c'est comme ça qu'il fonctionne. À part des arts visuels, il n'y a qu'un endroit où on a parlé de ça en sciences humaines.
Géométrie.
Il n'y a que la géométrie qui a parlé d'espace.
C'est pour ça que la géométrie euclidienne, toute la géométrie.
Ben oui, je suis évidemment, il y a la géométrie euclidienne parce qu'on n'a pas de géométrie ici, dont la géométrie euclidienne n'est qu'un cas parmi d'autres. C'est-à-dire que je pose que pour étudier un langage spatial, dans le passé, sur quoi s'appuyer, il n'y a rien, jamais eu rien d'autre que le langage géométral et la production des artistes. Et c'est à partir de la seule réflexion théorique qui a été faite sur la géométrie, le langage géométral, l'étudiant et non étudiant, et les œuvres. Il n'y a pas, tout ce qui est dans le langage verbal, pour moi, ne peut pas m'aider. Comme on peut bien dire, géométrie, c'est verbal, il faut se comprendre. C'est sûr, mais ça fait référence et ça parle de structure spatiale en trois dimensions. En deux ou en trois dimensions.
Ouais, donc ça utilise comme la peinture le langage, des fois pour expliciter, mais ce n'est pas l'outil n'est pas le langage virtuel en tout cas.
C'est ça, définitivement. Donc moi, ma position maintenant, c'est qu'il est impossible de rendre compte du langage visuel à partir du langage verbal. C'est la plus historique. Et c'est une tentative de tous ceux qui sont dans, qui occupent divers. Région du langage verbal, d'aller mettre la main sur un instrument, mais que le langage verbal, c'est pas ça. C'est nécessairement tridimensionnel.
C'est un dur jugement devant ce qu'on appellerait la nouvelle critique ou la critique contemporaine dans le secteur de l'art.
Ben, c'est-à-dire que les vagues successives de projections sur l'art visuel de toutes les sciences humaines, je trouve ça ridicule. Si, être critique d'art, c'est pas d'aller trouver le dernier secteur des sciences humaines qu'on n'a pas arrivé à appliquer là-dessus, quel qu'il soit, tu vois. Les archétypes de Jung, ou l'archéologie, ou c'est ça, les théories des sciences verbales que systématiquement on voulait poser jusqu'ici comme étant le corrélatif sémantique de l'objet du langage visuel, je ne sais pas possible. Parce que le langage visuel a d'autres structures.
Il faut donc arriver à un haut niveau d'abstraction.
Il faut comprendre comment ça fonctionne le langage visuel.
Faut il faut vraiment l'abstraire.
De façon linéaire. Il faut le construire, décrire sa syntaxe, et ensuite décrire sa sémantique. Alors c'est comme je dis, c'est ça mon prochain ouvrage, d'essayer de faire ça, qui est une espèce de d'une première. Ça n'a pas été fait souvent.
Non, c'est ça. Est-ce qu'on arrête là-dessus? Parce qu'il y a aussi des choses, j'aimerais. Comment as-tu vu l'évolution du milieu, toi, depuis 68? Le milieu des arts.
Et comme je te dis, le milieu Québécois. Des arts a été extrêmement déboussolé par le refus de l'art visuel par le milieu. Qui a été de toujours, de vouloir...
Par le milieu, incluant ou excluant les artistes.
Mais les artistes, comme je dis, ont été touchés par une agression extrêmement forte de la chronocentrie. Et puis les pauvres artistes, par sympathie personnelle ou autrement, ont été mises en question et se sont culpabilisées et ont pensé en effet qu'il était question pour eux, dans leur pratique, non pas de développer les possibilités du langage visuel, mais de tenir compte et de discuter des problématiques du langage verbal. C'est le grand problème. On revient un petit peu aujourd'hui à ce diapositive, toutes les impasses qui ont été faites à partir aussi bien du matériel dialectique que de toutes les systématisations qui ont été faites.
Tout nourrisme nord-américain.
Les pseudo-structuralismes, hein? Puis l'art visuel, c'était ça. Puis c'était ça, puis c'était le mythe, puis c'était ceci, venant des distances, des autres. On a tout réduit ça à un niveau verbal très net et clair. Et que c'était ça qui était le sens du langage visuel.
Et dans ce sens-là, c'est l'art québécois aussi mal vécu que les autres arts.
Il y a eu beaucoup de difficultés. Et est-ce qu'il a pu s'en sortir vaillamment, comme beaucoup d'artistes? Et bien sûr, au 19e siècle, au moment où on ne savait pas, on ne posait pas tellement qu'il y avait une distinction entre le langage verbal et le langage visuel. C'est sûr qu'on lit le langage de le journal de Lacroix. On sait bien que ce qu'il pouvait dire aux gens à côté, lui s'intéressait, ce rouge-là puis ce vert-là, il est-tu correct à côté de mon bleu? Mais... et puis il a fait son œuvre, hein, qui a eu un certain impact, une certaine déconstruction qu'il avait réalisée dans son travail. Malgré tout, les autres artistes, surtout les jeunes artistes, qui sont pris devant cette pression, je dirais cette oppression terrible de la phonocentrie, on les culpabilise s'ils font de l'art visuel. Ils n'ont pas le droit de faire de l'art visuel, il faut qu'ils fassent de l'art pour véhiculer un message verbal.
De l'art relationnel.
Ben, un message verbal. L'art visuel est aussi relationnel dans la réalité. Tu vois? Alors, ils ont été pris, c'était la grande question, c'était le grand ressurgissant, si on peut dire, du pouvoir du mot.
Autrement dit,
en 68.
Tu dirais que le 68 est jusqu'à maintenant,
jusqu'à
80, c'est des périodes creuses, alors, que ce soit au Québécois ou ailleurs, quoi.
Oui, je pense que sont là. Disons qu'il aurait pu, puisqu'à ce moment-là, la grande répression, la plus grande, c'est toujours celle de la peinture. Hein. Systématiquement, c'est le lieu de la déconstruction, c'est le lieu qu'on n'accepte pas.
Mais c'est d'aucune façon. C'est le lieu le plus important.
C'est le lieu le plus hétérogène. Plus hétérogène par rapport au langage verbal. Alors, c'est bien sûr que tous ceux qui entrent à ce moment-là dans un compromis du langage verbal, ben, ils vont s'adresser à la sculpture. Alors, il y a toute la possibilité à ce moment-là d'un compromis supposé, parce que je crois quand même que la sculpture a des possibilités comme langage visuel.
Et hein? Quand on lit structure d'espace pictural, elle a des possibilités très minces. Hein?
Ben, c'est pas de ma faute à moi. Je te dis rien qu'une chose. Je te dis simplement que depuis
68. Ton analyse t'amenait à ça.
Le primat, ce que j'appelle l'oppression de la phonocentrie, du langage verbal sur les arts visuels, a fait qu'en réalité, on a voulu renoncer et refuser. De peinture, ni de caca. Puis on a commencé à faire la sculpture, des objets tridimensionnels. On crée donc d'autres types de fictions, supposément sculpturales. Mais là, il y a un tel déchet de verbal là-dessus, qu'on ne sait plus comment faire. Et d'autre part, est-ce qu'il y a quelques œuvres, peut-être, qui en réalité sont un prolongement de l'art minimal, sur le plan sculptural, qui sont peut-être.
Partout d'ici, d'ailleurs.
Des statements importants, ici et ailleurs. Mais c'est sûr qu'en peinture, en 68 et je crois que 78, c'est pas grand chose de neuf.
Parce que tu privilégies comme forme d'expression toujours la peinture.
Mais non, mais ça n'est pas passé. Non, j'ai en sculpture. Non, parce que c'est passé en sculpture. C'est des prolongements, je dis, ou bien de la sculpture minimale, ou bien de la sculpture expressionniste, un peu, ou de la sculpture d'environnement. Mais ça, il s'est passé en effet des développements énormes dans le domaine de la sculpture.
OK.
C'est évident. Mais qui est pris? Ben, est-ce que c'est le discours toujours critique qui ensevelit toutes les possibilités d'expression du langage visuel qui a été tellement pris dans les discours verbaux qu'on a la difficulté à voir la... C'est parce qu'en peinture, dans les grands moments, si on peut dire, où ça s'est passé, les artistes visuels n'admettaient pas, si on peut dire, l'interférence continuellement du discours verbal. Tandis que dans la sculpture architecturale, la sculpture environnementale, il y a eu une telle complaisance à penser qu'enfin, on a un sens aux yeux de ceux qui blabla. Enfin, on a un rôle dans la société. On sait ce qu'on
fait. On leur donne ce qu'ils veulent.
On leur donne ce qu'ils veulent. On a une place. Alors, moi, je dirais qu'il faudrait revenir sur ces œuvres-là et un peu surtout l'évolution de la sculpture pour se rendre compte est-ce qu'il y a vraiment eu. C'est à refaire. Cette analyse, donc, parce qu'il y a une telle mystification qui s'est faite, un tel noyage de commentaires verbaux, qu'on ne peut plus se rendre compte si vraiment, au niveau du langage visuel, ces techniques-là sont féconds, sont pertinents, et on était tellement noyés dans le langage verbal, on ne sait plus. C'est qu'on a eu une telle. Tel refus, ce qu'on a appelé la critique formaliste, un tel refus de la description, moi je pose modernisme, qui a priori interdisait la réflexion critique.
Mm-hmm. Parce qu'il y a la question que je te posais quand tu disais privilégier, pour toi l'art c'est d'abord et avant tout et surtout peut-être la peinture.
Non, c'est un langage. C'est pas la peinture. C'est un langage visuel. Mais je t'assure que en dehors de la peinture, il y en a peu qui développent le langage visuel.
C'est surtout dans la peinture que ça se produit. Okay.
Je ne sais pas, ils se mettent tous à la remorque du langage verbal. Et c'est le grand problème, si on peut dire, de tout ce qui était le postmodernisme, la performance. Par une espèce de, je ne sais pas, de tour d'esprit, ils ont refusé d'admettre, non pas simplement une visée critique, je comprendrais que ça fondait sur Greenberg. Mais il refuse toute visée critique et toute réflexion critique. On n'a pas le droit de prendre une distance de l'objet. Il faut participer à l'objet de plein pied. À ce moment-là, moi, je dis l'objet qui m'est proposé n'est pas un objet de langage. Le langage, c'est un lieu à travers lequel on communique quelque chose. Si un objet est un objet d'existence, et non pas un objet de langage, selon moi, ce n'est plus un objet d'art.
Ah, okay.
C'est
tu refuses toute chose. Œuvre d'art qui soit, par exemple, autobiographique ou...
Toutes autobiographiques. Mais les réduire à ça, plutôt que c'est méprisant.
Mm-hmm.
Évidemment, toutes les œuvres sont autobiographiques. Le problème, c'est pas que c'est autobiographique, mais qu'est-ce qu'elle dit sur la biographie? S'il ne faut pas raconter sa vie pour que ce soit intéressant pour les autres, tu comprends? D'aucune façon. Tu comprends? Moi, je fais du journalisme pendant des années, puis avec les...
C'est pas parce que quelqu'un se raconte que c'est en soi intéressant.
Moi, je ne sais pas que j'en ferai une marque dans l'histoire ou quelque chose, mais il demeure que pour moi, c'était l'année où j'ai publié une structure d'espace culturel, mais qui est évidemment le résultat de très grand nombre d'années d'investissement dans le domaine des arts. Bien sûr, c'est sûr que ça avait commencé, disons, très concrètement avec l'actuel.
Où tu étais propriétaire, copropriétaire?
J'étais avec moi et mon adversaire ensemble, et c'est bien sûr que j'étais très impliqué dans tout ce qui était là, dans ce qui était la galerie, l'orientation de la galerie, et le choix d'exposants, la discussion sur toutes les problématiques que posait chacun des exposants, parce qu'à ce moment-là, la préoccupation théorique était extrêmement forte à cette époque-là. On discutait énormément de ce que voulait dire, de ce qu'impliquaient les démarches, les pratiques des uns et des autres. Tout ça était analysé en détail, dans des longueurs, autour des verres de bière, mais c'était en effet ce qui se passait. Et donc j'étais extrêmement impliquée dans ça pour comment je pourrais marquer mon implication. Disons que on pourrait le trouver, moi, qu'est-ce que je suis? Pour pas le réduire, mais disons que j'ai toujours été passionnée par les problèmes de langage et aussi par les problèmes de communication. Disons peut-être plus par les problèmes de langage que de communication, mais il s'est trouvé que dans la vie concrète, les problèmes de communication sont ceux où j'ai eu à m'intéresser et qui demeuraient intéressants pour moi. Mais disons qu'en 52, j'avais produit comme thèse de maîtrise à McGill un ouvrage qui a été publié en 1958 et qui s'appelait donc la littérature non-verbale. à mes yeux, ce travail-là, donc, qui a été reçu, disons, de façon un peu neutre à McGill, mais par des professeurs, c'était des Français à l'époque qui enseignaient à McGill, mais malgré tout, des professeurs donc, qui étaient préoccupés des problèmes à l'époque qu'on appelait stylistiques. Le problème, comment analyser le langage, comment voir les écarts de langage, qu'est-ce que ça voulait dire, comment interpréter l'expression d'un auteur ou d'un autre. Et j'ai eu des professeurs là-bas, particulièrement Nardin, qui est extrêmement fin, extrêmement sensible, et qui, vis-à-vis du langage verbal, si on peut dire, donc, m'avait un peu initié à ce qu'aujourd'hui on appellerait un peu la linguistique, la sémiologie linguistique. Alors, étant donné qu'il était là, j'ai orienté donc cette recherche, à ce moment-là, la maîtrise, sur donc, ce problème de l'intention non-verbale. C'est-à-dire comment se posait donc, le problème de l'expérience et le problème des langages qui peuvent exprimer l'expérience. Hein, c'est et dans cet ouvrage-là, évidemment, puisqu'il s'agissait d'un travail dans le contexte des études littéraires, j'avais beaucoup plus axé sur des problèmes de littérature, de poésie, en particulier j'avais analysé énormément l'impact aussi bien de la linguistique, depuis Saussure, que ce que je rappelais ça, c'était le sous-titre de la thèse, c'était l'impact des théories du langage sur les transformations des formes littéraires au XXe siècle. Et là-dessus, j'avais évidemment insisté énormément sur toute l'aventure surréaliste en poésie particulièrement. Je parlais aussi par ailleurs, comme d'une chose qui existait, qui était importante, donc des transformations du langage plastique que le surréalisme avait voulu proposer, de transformer la figuration en proposant donc une figuration lyrique qui ne répondait plus donc au corrélatif de la figuration réaliste, mais qui tentait donc, à travers une figuration qui se maintenait, de traduire l'inconscient. Alors, dans ce travail-là, ce que je réalisais, donc, c'était un investissement au niveau des problèmes de langage, des divers langages, aussi bien le langage de la poésie, le langage du roman, le langage de la peinture, donc cette problématique même du langage, qui, à ce moment-là, disons, n'était pas, je veux dire que c'était une espèce de, je veux dire que c'était une épouse personnelle, qui n'était pas tellement à la mode. Il demeure qu'en 1958, ça a été publié, mais que j'y ai ajouté quelque chose qui était, je pense, la seule chose que j'ai ajouté, si je me souviens bien, c'est la publication 53 du degré zéro de culture de Barthes, que j'ai mis dans les renvois, j'ai mis une note. Parce que le degré zéro d'écriture, à ce moment-là, de Barthes, en 1953, m'avait paru que je suis allé tout à fait dans le sens de mes préoccupations. Et c'était les débuts, évidemment, de la linguistique et de la sémiologie. Alors, j'étais donc complètement investi dans le problème du langage. C'est-à-dire que je ne suis pas été investi uniquement dans le problème, si on peut dire, de la peinture, des arts visuels, mais tout autant dans les problèmes de du langage au niveau du langage visuel. Moi-même, personnellement, c'est mon inspiration, je peux dire, ça aurait été d'écrire, de travailler en poésie. Donc, j'ai écrit beaucoup de poèmes que j'ai plus ou moins publiés, j'ai écrit quelques-unes très peu. Finalement, j'ai essayé aussi de publier après, puis des difficultés éditeurs. À 15, j'avais accepté à la presse, puis de publier avant. J'ai pensé à Miron, qui va faire un biologique, encore le manuscrit qui va être publié. Et puis, je ne sais pas, je n'insiste pas. J'ai publié 15-30 poèmes. Mais, donc, pour moi, personnellement, la poésie, c'était la possibilité d'extendre et de développer les moyens d'exprimer, donc, l'expérience non-verbale, la littérature et le non-verbal. La littérature, pour moi, c'était un processus dans lequel il s'agissait de faire sauter, de défaire, de déconstruire donc les limites que les usages, les syntaxes, les codes avaient figées, et qu'il s'agissait que le langage verbal, autant que tous les langages, avaient des possibilités énormes de pouvoir structurer des codes et des syntaxes différents de ceux qui existaient précédemment. Et que c'est ça que je voulais faire en poésie. Alors, dans un niveau concret, donc, il m'est apparu rapidement, puis c'est un peu ça pourquoi j'ai choisi, en fait, parce que j'ai eu un doctorat en lettres, en études littéraires, avec une thèse sur Beckett. Pourquoi, en fait, j'ai préféré beaucoup, et au cours de ma vie aussi, j'ai préféré peut-être plus proche, puisque je me suis occupée de critique d'art, et pendant que j'étais à Châtelaine, quand des amis faisaient de la critique d'art, et non pas de la critique littéraire. C'est parce que je trouvais que dans le domaine des arts visuels, les problèmes de langage étaient beaucoup plus nets et neufs, et que la pesanteur idéologique dans le domaine du langage était tellement énorme qu'au niveau de la communication, au niveau de la discussion idéologique, il me semblait que j'apprendrais plus moi-même, que je pourrais davantage définir tous les problèmes du langage si je m'adressais au langage visuel plutôt qu'au langage verbal. Évidemment, l'un et l'autre, pour moi, c'est le même problème. C'est le même problème, ce que les artistes visuels n'admettent plus. Pour moi, c'est le problème, c'est un problème d'épistémologie. Un problème de philosophie, moi, je vous dis une philosophie. C'est un mot bien discrédité aujourd'hui, mais il demeure que c'est un peu à partir de problèmes épistémologiques que je me suis à l'âge de 20 ans, donc impliqué dans une réflexion sur des problèmes d'expression, de communication et de langage. Alors, ce qui est arrivé, donc, après l'étude non-verbale, donc, j'ai fait de la critique d'art, donc j'ai fait des textes.
Après la publication?
Après la publication de la littérature non-verbale. Donc, j'ai fait des critiques d'art, évidemment, l'aventure de l'actuel m'a beaucoup aussi influencé dans le sens où j'ai été impliqué dans une prise de conscience de ce qui se passait dans les transformations du langage culturel. Donc, j'ai été amenée, d'une certaine façon, et je me suis laissée amener aussi, donc, à poser la question de ce qui se passait au niveau du langage visuel. Et disons qu'en 68, c'est justement ça qui a abouti dans la publication de cet ouvrage sur
le
l'espace culturel. Et dans cet ouvrage-là, donc, il y avait d'une part certaines tentatives d'écrire, d'expliciter des langages picturaux, des spatialités donc, différentes, chez le monde en particulier,
Kandinsky.
C'est ça. Mais il y avait aussi encadré, un peu comme en parenthèse, tout ça a été mis en parenthèse quand même, sur une tentative de développer sur un plan théorique ce qu'il en était du langage visuel. De quoi il est ces questions-là? Comment on peut poser le langage visuel? Comment peut-on le lire, le décoder? Et en fin de vie, je ne sais pas si tu te souviens, c'était quand même à partir de ma participation à l'Association des études expérimentales, qui m'apparaissait donc à ce moment-là peut-être une possibilité qui ne s'est pas tout à fait réalisée, mais une possibilité, je crois que je m'en suis aperçu un peu, c'est ce que je notais, je pense, dans le texte, une possibilité donc d'essayer de déterminer de ce qu'il en est. Donc, des structures du langage visuel, des structures de la réception du langage visuel, puisqu'ils font, en fait, ils font presque uniquement ça dans l'esthétique expérimentale, uniquement vérifier qu'est-ce qu'un récepteur en dirait pour peu qu'on lui pose des choix, telle question. Mm-hmm. Donc, c'est pas tout à fait ce à quoi j'espérais. Et je pense que ça m'a un peu déçu, cette méthodologie. Par laquelle on essaierait de comprendre ce qui se passe dans la communication au niveau du langage visuel. Je pense que je le note un petit peu, qu'il y a un certain scepticisme par rapport aux méthodologies qui étaient utilisées de la psychologie et des méthodes quantitatives pour essayer de déterminer qu'est-ce que dit le langage visuel, quel sens il a, qu'est-ce qu'il provoque chez le récepteur, que la méthodologie était tellement frustre. Qu'en réalité, à cette époque-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais c'est bien sûr que tout ça, donc, s'est fait dans le début des années 60, les gens le rencontrent en 68. Mais il est bien sûr que c'est le moment où se développe malgré tout un très grand nombre d'hypothèses théoriques différentes de celles de l'esthétique expérimentale, qui est tout le développement du structuralisme, le développement de la linguistique, le développement de la sémiologie, le tout début, si on peut dire, d'un nouveau discours sur l'art prétendrait donc aller un peu plus loin dans la compréhension du mécanisme. Donc, moi, mon problème, c'est toujours savoir comment les langages sont constitués, quels sont les niveaux de langage qui existent, puisque je posais en 1952 la question orale. Quelle est l'efficacité particulière de certains types de langage? Et c'est pour ça que j'ai pu faire du journalisme et me passionner pour le travail que je faisais, parce que, donc, premièrement, à la presse, d'abord, pendant 4 ans, pendant 6 ans, et ensuite, à Châtelaine, pendant 12 ans, la question, c'était de voir comment on pouvait structurer un niveau de langage qui établirait une communication par rapport, évidemment, à un niveau de langage qui pourrait être malgré tout plus expressif. Hein,
c'est la poésie, dans ce cas-là.
Poésie, même la science, on peut dire. Parce que la façon dont j'ai fait Châtelaine, c'est que je voulais, à ce moment-là, proposer et faire connaître donc un public féminin, de très nombreux, 300 000. C'était vu parce qu'une maison sur trois dans Québec. Donc beaucoup d'hommes le disaient, de 300 000 hommes qui le disaient, on le savait, c'est nous, il y avait 900 000 femmes. C'était de discuter, donc c'était la Révolution tranquille, 1960, donc un chambardement, une mise en question de la structure idéologique du Québec. Et à ce moment-là, comment, qu'est-ce qu'on peut apporter aux femmes pour les aider, si on peut dire, à la réflexion sur la problématique de la Révolution tranquille? Et évidemment, c'était radical, c'était très fort, disons, c'était après. Donc, 68 n'était pas encore là, mais disons que même avant 68, c'était assez fort. Disons que simplement la transformation, si on peut dire, des notions, simplement les notions sexuelles, c'était une transformation profonde dès les années 60. Formation du système d'éducation, les notions d'autorité, l'occupation des cégeps dans les années 65. Alors c'était, moi j'étais en dialogue avec les mères de famille. Mes enfants arrivaient, on était tout en question, l'autorité de la marne, et puis c'est 30 ans, la chambre des filles, etc. Bon. Alors, moi j'essayais de fournir aux femmes des instruments avec lesquels ils pouvaient réfléchir sur ces questions-là. C'est peut-être orienté, mais on ne pas tellement c'est orienté, parce qu'on ne sait pas trop quoi en penser de tout ça. Mm-hmm. On peut même prendre une partie systématique, mais ce que j'ai de parler et de réfléchir, ça ne suffit pas.
Ouais, surtout de l'écrire.
Il faut l'écrire. Il faut l'écrire à ce moment-là, d'essayer de trouver dans les réflexions, donc de ce qu'ont pensé ces problèmes-là, de la psychologie, de les nouvelles sociologies. J'essayais de véhiculer aux femmes l'information d'une nouvelle culture, peut-être, ou d'une nouvelle réflexion, on voit tout ça, nécessairement une nouvelle culture, une nouvelle réflexion, ça paraissait la culture, ça, l'évolution de la culture, des informations, donc, sur une réflexion qui se faisait sur toutes ces structures sociales, qui étaient dans des voies différentes de ce qui existait précédemment. Et c'est bien sûr que toute la décléricalisation faisait que, tout simplement, nous, on se trouvait, nous, des laïcs, simplement, à avoir à répondre aux femmes, on se trouvait comme remplaçant aux yeux des femmes dans les revues féministes, on peut dire, parce que toute l'action de tous les professeurs, les journalistes, tout ce qu'on veut, le clergé n'était plus là pour dire qu'est-ce qui était bon. Mm-hmm. On se trouvait, nous, à répondre, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? Nos enfants, ils ne veulent plus travailler, ils ne veulent plus du régime capitaliste, ils ne veulent plus écouter les professeurs, qui savent tellement mieux que ça, ils ne font plus ceci, ils ne font plus cela. Alors, dès 1960, on s'est trouvé dans une contestation très grande, par la transformation complète, la mise en question de toutes les structures de la société québécoise. Comme je dis, à ce niveau-là, moi, mon problème, c'était comment, d'une certaine façon, peut-on arriver à transformer et à communiquer, finalement, des recherches qui étaient déjà accomplies. Ce qui, à mes yeux, différencie le journalisme de l'art. Parce que le journalisme, c'est un lieu, pour moi, un lieu d'intermédiaire et de transmission.
Une tribune publique.
Une tribune, plus qu'une tribune, c'est un lieu à travers lequel on essaie de faire passer ce qui demeure la réflexion de groupes moins importants de la société qui n'ont pas les instruments de diffusion qu'il fallait. Donc essayer de faire savoir, de faire connaître.
Une chair laïque.
Une façon différente de voir les problèmes, communiquer donc des instruments théoriques, conceptuels, pour que les gens arrivent à maîtriser les situations à partir d'un certain nombre d'indices. Mais ça, il faut le communiquer. Comment on fait pour parler aux gens? Comment on fait pour les rejoindre? Et là, c'est une question, comme tu sais, de Ville-Mort pour un magazine, qui est inscrits sur l'abonnement. Si les gens ne se réabonnent pas parce qu'ils ont trouvé ça ennuyeux, le sermon qu'on leur a servi pendant un an, c'est grave. Donc, il est question de voir comment on structure un article, comment on se pose le problème de terminologie, comment on détermine aussi tout l'aspect visuel des articles. Donc, un très grand investissement au niveau de la communication. C'est au niveau de la communication très concrète. Très concrète, comme je te dis, parce que si ça ne marche pas, ben, la rédactrice en chef, elle est mise à la porte. On en prend une autre, qu'elle connaît plus son public. Elle sait plus de quoi il faut parler, sur quel ton il faut le parler, comment il faut le présenter. Hein? Donc, c'est une espèce de... une game, hein?
C'est un mensuel, en plus.
C'est un mensuel. Alors, comme je te dis, moi, ça me passionnait, ce problème de la communication, et de savoir comment, donc, il faut, en effet, faire changer de niveau l'information pour qu'elle puisse être assimilée par des gens qui n'ont pas la même éducation, qui n'ont pas le même point de départ, qui ne sont pas des chercheurs en laboratoire, qui ne sont pas des élaborés dans leur salon, dans leur chambre à coucher, qui écrivent des textes, et des gens qui ont... pour transformer, traduire. Et comment on le fait sans perdre trop de ce qui a été dit, puisqu'on est obligé de traduire dans des termes qui ne sont pas ceux qu'ils utilisent, donc qui ont moins de charge. Pour moi, c'était ça, mon expérience du journalisme. Donc, problème de communication, donc très important, mais qui m'a toujours fait maintenir, parce qu'à ce moment-là, donc, je publiais des articles, donc ici et là, ou dans Liberté, ou ailleurs, ou dans le personnage, je faisais la critique, ou dans d'autres endroits. Je faisais toujours maintenir la différence de niveau. Que lorsque j'écris pour Liberté ou Art International, j'écris pas pour Châtelain. Mm-hmm. Ça veut dire beaucoup. C'est qu'à ce moment-là, je ne suis pas obligée de me plier aux exigences d'une communication de masse. Et je ne vois pas pourquoi un individu serait obligé de se plier aux exigences de la communication de masse, sauf s'il est payé pour le faire. S'il n'est pas payé pour le faire, qu'il reçoit une pitance pour le faire, dans des revues, on recevait du Conduit des Arts, on fait 60$, je pense, ça va être dans ce temps-là, pour faire des articles.
Bien payé.
12 pages. Alors, tu comprends que. Quelles sont les exigences du. À ce moment-là, c'est tout autre chose. C'est-à-dire, lorsqu'on, j'ai toujours posé que selon le public auquel on s'adresse, on dit autre chose. On est obligé de prendre donc, des vocabulaires, des structures d'expression différentes. Mais j'ai toujours posé que cela est essentiel. Et que dans une société saine, il est essentiel qu'il y ait des médiums de diffusion de masse. Mais il est aussi essentiel qu'il y ait des médiums de fusion plus limités, où à ce moment-là, une certaine recherche peut se poursuivre. Parce qu'il est certain que dans la diffusion de masse, on ne peut pas, à mes yeux, faire la recherche. C'est trop. On est obligé de traduire pour
le public. Mais quand tu faisais Châtelaine, est-ce que c'était vraiment un travail seulement? Ou une espèce presque de missionnaire.
C'était un travail énorme.
Non, mais le travail, c'est un job.
C'était pas, on peut pas dire, c'est parce que j'y crois pas.
Mais tu y croyais en Châtelaine, dans ce que tu faisais dans Châtelaine.
J'y croyais, parce que je croyais à ce problème de la communication, mais je croyais à la presse. Je croyais à la presse, c'est un grand problème. Quand je travaillais à la presse, ça c'est pas pour, je fais que ce qui est dans ton tape là. Et quand je travaillais à la presse, donc c'était en 54, à ce moment-là, quand j'étais embauchée, c'était comme ils appelaient ça dans le journal, ils m'avaient passé un examen, faire la traduction de dépêche. Ils demandaient à un reporter de faire la traduction de dépêche. Je me suis rendue là. J'ai traduit 2-3 dépêches. On dit d'accord, on vous embauche. Vous êtes pour devenir reporter à la presse. Et là, ils m'ont dit, vous allez dans les pages féminines. Parce que les femmes, à l'époque, en 54, n'étaient pas admises dans aucun autre secteur de la presse. Les pages féminines. Mais en même temps, il y avait tout le secteur des arts qui était à côté, évidemment, qui m'intéressait beaucoup plus, par élève, des hauts dirigeants, où Repentine était déjà entré. Alors ça, ça pouvait m'intéresser, et bien évidemment, je pouvais en effet, connaissant le bureau et tout ça, discutant avec les gens, je pouvais en effet, comme j'ai fait d'ailleurs, prendre la responsabilité de la chronique de poésie. Ça, c'est drôle, à vous l'oisir.
À l'œil, quoi.
Mais, c'était comme ça que ça se faisait. Eux, ils en faisaient quelques livres, mais tout le reste, ils le distribuaient dans la salle de rédaction. Ça vous intéresse-tu les voyages? Ça vous intéresse-tu l'histoire? Ça vous intéresse-tu ceci? Ça, c'était à l'œil. Évidemment, j'ai fait ça, moi, la chronique de poésie pendant mon temps. Puis j'en ai aussi, hein, on me dit, c'était un job aussi, travailler là, puis en même temps, on fait autre chose. Quand je suis arrivée à Châtelaine, c'est bien sûr que le mensuel, a de plus grandes possibilités que le quotidien parce qu'il permet de travailler davantage les articles. Bien qu'il vienne moins vite, c'est pas l'information de même type, et qu'on peut, sur l'ouvrage, sur un article, donc, on peut prendre l'information, le background et tout ça, finalement, arriver à un travail qui est un peu plus satisfaisant, si on peut dire, au niveau visuellement. Un article, on s'est investi pendant 2 mois, 3 mois sur un article, ça dit plus que d'être obligé de tenir au jour le jour. Alors, mais ça demeure quand même. Je l'ai fait, j'étais heureuse, mais c'était un gros travail. J'étais intéressée parce que ça m'intéressait le problème de la communication, le problème de l'échange, le problème de comment on fait. Puis j'ai beaucoup travaillé avec les rédacteurs, j'ai des théories donc sur la façon dont on conçoit des articles, comment ça commence le fameux lead de développement et conclusion, mais évidemment, on les a pris et repris parce qu'on avait des enquêtes qui nous démontraient qu'un article, donc, on avait commencé de le lire, et puis que les lecteurs l'avaient abandonné à moitié, au tiers, puis ils l'avaient lu jusqu'à la moitié, puis eux, ils l'avaient laissé. Donc, on avait les moyens de vérifier comment la communication s'établissait. Alors, c'était extrêmement important, donc, une réunion, c'était de voir comment se faisait cet article-là qui avait cessé d'être lu après le tiers. Le titre a été bien soigné, le sous-titre, l'entrée en matière, l'appareil visuel qui entraînait. Puis tenez vous, les gens commençaient de le lire et l'arrêtaient au tiers. Parce qu'il y a trop de gens qui arrêtent au tiers de l'article. S'il y en plein plusieurs dans la revue, puis on sort plus que quelques fois par année, là, quelques mois par année, ils m'ont dit c'est ennuyant cette revue-là. On commence à lire le texte, c'est plat. Qu'est-ce qui se passe? C'était tout un exercice d'essayer de comprendre quelle est la psychologie du public. Quel est le niveau d'information du public? Comment on peut parler? Pourquoi est-ce que tout d'un coup la communication arrête? Hein? Donc, c'était essentiellement ce que. C'est sûr qu'il y a eu aussi, entre autres choses, aussi, toute la question de la femme, qui était un problème énorme, notamment depuis les années 60, à laquelle, malgré tout, quoi que j'en dise, j'étais sans doute liée d'une façon courante par le fait que j'étais une femme. Je vais vous dire, moi-même, personnellement, je n'étais pas particulièrement prise par ça. Mais je me suis sentie suffisamment impliquée pour pendant 12 ans ne penser qu'en fonction d'une lectrice féminine et de ses problèmes dans la société. Alors, donc, tout ça, ça a joué. Donc, c'est une grande problématique, mais en même temps, moi, je te dis, je continue à faire de la critique picturale et je continue aussi à faire des textes dans d'autres revues et de faire de la poésie. Et c'est bien sûr que je posais qu'il y avait une différence énorme de pertinence et de niveau entre une expression verbale qui était journalistique et qui était poétique. Et en même temps aussi, je maintenais que cette même différenciation existait dans le domaine culturel, c'est bien sûr. C'est pas la même chose que des mécanismes qui étaient plus adaptés à la communication, c'est pas la même chose que des secteurs de recherche, en fait. Donc, c'est ça. Donc, à 68, je me posais donc que le langage visuel m'apparaissait davantage, bien que j'ai fait cette thèse sur Beckett, mais mon Dieu, la littérature me paraissait prendre des voies qui ne me satisfaisaient pas du tout. Et l'ampleur, si on peut dire, du chapeau idéologique était tellement forte. Vers 68, dans le domaine de la littérature, à l'Université de Montréal, ce qui régnait, c'était l'analyse thématique. C'était les fameuses de Richard, de Poulet, sur des thèmes. Comme ça se faisait. On déterminait des thèmes dans une des thèmes abstraits. Hein. Le cercle et la droite.
Comment lire Mallarmé sur ses couches, sur les levées de soleil.
Ça a duré bien des années. Ça. Moi, je ne pouvais pas souffrir. C'était terrible. Puis, énorme. Et finalement, je me disais que la tentative d'essayer de redresser ce que je trouvais d'absolument impertinent dans le discours sur l'écriture verbale passait tellement fort. Je me disais que, avec un investissement dans le langage visuel, je pourrais arriver au même résultat avec des moyens beaucoup plus prégnants et beaucoup plus efficaces. C'est-à-dire que moi je pose qu'à mesure que l'on va mieux comprendre les structures du langage visuel, on va finir par comprendre ce qui se passe dans le langage verbal, où c'est la foire au camp. On peut dire n'importe quoi, c'est bien complexe.
Dans le langage verbal, on peut dire n'importe quoi, c'est ce que tu dis.
Et dans la théorie surtout. la théorie du langage verbal, c'est le grand ramasse-tout, où il n'y a aucune rigueur, où on fait la critique d'une façon, on fait la critique d'une autre façon, il n'y a aucune rigueur. Évidemment, la sémiologie s'est développée, c'est-à-dire vers les années, en fait, autour des années 70. Avant ça, c'est sûr que les grands linguistes, Benveniste, Jacobson et les autres ont publié avant. Mais la prise de conscience, en fait, sur un plan social, une espèce de diffusion, a fait que la portée de leurs travaux est entrée dans le domaine de la communication et de l'analyse, de la littérature comme de l'analyse et des œuvres visuelles. Ça fait une genre de c'est le tournant des années 70. C'est la grande, grande différence. C'est bien sûr, si par exemple un Pleinet en 70, non seulement la peinture s'est intéressée un peu à la, disons, au formalisme américain, qui a vraiment peut-être presque en entier pour l'incorporer dans son discours, c'est que tout ça a été préparé par la linguistique verbale qui, avec Barthes et avec les autres, donc posait qu'il était question, de connaître les structures. Des langages. Et le formalisme, dans la façon où il s'est affirmé, évidemment, c'est ce qu'on lui a beaucoup reproché, évidemment, n'insistait que sur la nécessité de prendre conscience des structures du langage pictural. Il posait que la notion de contenu, la notion de notion-là, était inaccessible. Ce qui était d'ailleurs la position de la linguistique. Si on lit Yanislev, par exemple, il dit lui-même que la théorie de Saussure elle-même, qui pose donc le signe, c'est le signifiant du signifiant du signifié, que tout ce qui est connaissable et observable, c'est le signifiant. Et à partir de là, on essaie de connaître le signifié. Et tout ce qui a forme, c'est le signifiant. Le signifié, lui, on ne veut pas le connaître. C'est le signifiant qu'on connaît. On le déduit, si on peut dire, de la forme signifiante qu'elle est signifiée, au point où Yanislev disait que le contenu ou le sens, on ne peut pas en faire une étude scientifique. On peut faire une étude du signifiant, on peut faire une étude du signifié, mais le signifié, on ne le voit pas. On ne voit que le signifiant. En réalité, c'est ça que Hegel disait. Le contenu, le sens des œuvres, c'est comme dire lui-même, il dit, moi, une fois, je disais que le sens de cette œuvre-là, c'était telle chose, et puis 3 mois après, je disais le contraire, puis je m'apercevais que mes lecteurs, ils disaient rien.
Ben là,
tandis qu'il dit, non, mais c'est qu'il a posé ça, sa critique, sa façon de faire la critique littéraire avant, parce que c'est la critique littéraire, hein. Il a marqué son expérience du changement de champ dans lequel il allait, de la littérature à la peinture. Il dit, en littérature, ça se pose pas, c'est cette espèce de façon de dire n'importe quoi. Mais il dit, en peinture, on dit, on voit des formes, on prétendrait que c'est ça qui est le contenu, on peut dire le contraire, il n'y a personne qui crie. Mais en littérature, ça n'existe pas, ça. Parce qu'en littérature, les gens ont une espèce d'affinité, comme il dit, il y a une plus grande culture littéraire qu'une culture visuelle. Et on ne leur en passe pas, les gens pour qui on analyse des œuvres littéraires, quelles qu'elles soient, on ne leur passe pas n'importe quoi. Ils ne prennent pas les contradictions comme étant possibles à l'intérieur, comme étant le sens d'un même statement. Et dans le domaine visuel, on peut dire une chose, on peut dire le contraire. Il ne se passe rien, les gens y avalent n'importe quoi. C'est parce que la théorie du contenu dans le domaine pictural, elle n'est fondée sur rien. Si elle n'est pas fondée, si elle n'était pas fondée, mais ça, c'est ce qu'il a proposé. Si elle n'était pas fondée, c'est une théorie du signifiant. Il n'y a jamais fait de sémiologie. Il n'a jamais posé.
Il son temps aussi. Il commence en 38.
Ben non, n'exagérons rien. Là, disons que dans les années 55-60, il a fait ses grands textes sur le formalisme américain. Il aurait pu, à partir de l'expérience américaine, être tardif. Il aurait pu lire davantage un peu son nombre d'ouvrages britanniques et réfléchir davantage. Il aurait pu, c'était pas si tard. Mais en fait, de toute façon, ça ne se posait pas trop, comme tu dis. Ça ne se posait pas trop dans la culture. Mais il posait quand même que ce qui était important, ce qui est important pour la critique, c'est d'essayer de comprendre et d'écrire le signifiant. Puis de dire, le signifié, bon, c'est pas, faites en ce que vous voulez chacun, c'est pas grave. Tout le monde, il met le signifié qui voudra, ça ne nous intéresse pas. On va discourir du signifiant parce que le signifié n'est pas qui peut dire n'importe quoi. Mais tu vois, la linguistique a corroboré ça d'une certaine façon en disant que le sens, ce qui n'est pas observable. On fait une science. Hein?
Mm-hmm.
On va en faire peut-être une littérature. Donc, anything goes, on peut dire n'importe quoi, c'est le domaine de la réalité. Mais on ne peut pas en faire une approche rigoureuse. C'est rien que ce qu'il dit, Greenberg. Il dit, on ne peut pas faire une approche rigoureuse du contenu. Puis moi, ça m'est... Au niveau théorique, c'est bien difficile à l'époque de trouver qui que ce soit qui a pu lui donner une...
Mais est-ce que tu t'es confronté à Greenberg de ces époques-là?
Moi?
Oui.
Alors,
je l'ai même confronté au niveau des textes, pas de la personne, mais...
Ben non, Greenberg, on n'a pas lu Greenberg au Québec avant quoi?
65?
Je ne sais pas qui c'est, mais je sais qu'on ne connaissait pas Greenberg avant quoi. Ben, il faudrait simplement retenir, je ne sais pas, moi, c'est la date rue des numéros, sans doute d'Arfor, les années 60, ou les États-Unis. J'imagine que ça peut être ça, je ne sais pas ce que c'est.
Il y avait une certaine renommée il y a 71, que je connais, moi, mais on ne sait pas si avant dans le milieu. Je pense que Greenberg était justement pris comme quelqu'un qui nous donnait par ses. Qui donnait au milieu par ses textes des informations sur les artistes, mais Greenberg lui-même n'était pas intéressant. Est-ce qu'on peut dire ça? Les premiers textes de Greenberg?
Je voudrais savoir lequel c'est. Moi, si on regarde la bibliographie de Greenberg, mais moi je veux dire, les textes de Greenberg, je les ai lus quand j'enseigne à Laval en 79, je les avais jamais lus, mais.
Tu n'as jamais touché à ça.
Je n'ai jamais lu. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai que je n'ai pas tout d'un coup vu un Art Forum ou je ne sais pas quoi, qui en 65-66 aurait publié un texte, On n'est plus dans un corpus, là. Maintenant, on étudie Greenberg comme corpus. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un texte qui a paru dans Art Forum que je lisais en 66? Il m'a dit, si tu l'as lu, tu crois que tu l'as pas lu, tu l'as lu. Mais c'était un texte en 15 critiques dont on ignore le nom.
Hein? Greenberg était un parmi tant d'autres.
Ah, un parmi tant d'autres, ça c'est évident.
Et c'est pas le nom qui est intéressant, ça qui
c'est évident. C'est ça qui est le problème qui s'est posé justement, mon étudiante aussi, à partir de cours qu'elle recevait à l'UQAM, posait que la théorie de la bidimensionnalité qu'a posé Repentigny dans ses textes, ça venait de Greenberg. Tu comprends, mais quand c'est 55, c'est l'article. C'est pas le fort, c'est Lucan qui dit ça. C'est Greenberg, qui est gauche influence.
Qui est Lucan qui dit ça?
Saint-Pierre.
Il lit de loin.
Tu mets pas ça dans ton texte, hein?
Ben oui,
non, mais c'est tout vient, forcément, ça vient nécessairement de Greenberg. C'est l'impérialisme américain qui a fait les plastiques.
Mais alors, tombe dans le débat du mimétisme, puis de François Gagnon, puis Molinari, puis tout ça.
Évidemment qu'on tombe dans ce débat-là. Mais tu comprends bien que Greenberg en 55, 56, 57, mais ça n'existe pas au Québec. Moi, je suis Repentigny, il n'a pas lu ça. Et la preuve, d'ailleurs, mon étudiante l'a fait. C'est que tout ça, ça vient tout de tard d'aujourd'hui. Tu comprends que avant Greenberg, l'art bidimensionnel, c'est du cas aujourd'hui, ils en ont décrit un paquet et qui est bien préalable à tout le discours de Greenberg, parce que ça fait partie de tout l'héritage du constructivisme, du pragmatisme, du matérialisme. C'est un discours de l'abstraction européenne. Mais d'un coup, quand c'est Greenberg qui le dit, c'est plus le discours de l'abstraction européenne, c'est Greenberg qui a inventé ça, puis c'est l'impérialisme américain qui arrive.
Mais dans ce cas-là, comme on dit, les structures de l'espace pictural, ton livre, est, pour toi, comme tu dis, il ne fera peut-être pas les annales de l'histoire de l'art international, mais quand même est un document extrêmement original. Ici, on n'a
aucune tradition.
Et donc, toi-même, tu prends un risque, parce que je me souviens qu'il termine justement avec l'esthétique expérimentale.
C'était un risque, c'était une prospective, une possibilité d'établir une approche un petit peu plus rigoureuse vis-à-vis de votre. Comme tu dis, Greenberg, moi je ne connais pas ça du tout, je ne
savais pas. Mais qu'est-ce que tu connaissais à l'époque qui pouvait te soutenir dans ton débat, à part les thèses de Rorschach que tu parles un peu de Kandinsky, tu parles de Baudrillard beaucoup, tu parles du homme, Molinari, ça finit un peu là-dessus.
D'où ça vient donc des œuvres, d'une certaine façon, on a beaucoup discuté. Sur le plan théorique, ça vient d'horizons extrêmement différents. C'est la psychanalyse a joué un très très grand rôle dans la pensée. La psychanalyse, donc, qui fournit un moyen de décoder, donc, et de marquer que le langage manifeste n'est pas du tout le le niveau auquel il faut se placer pour les œuvres. Ce que je posais dans le langage verbal, qui se retrouve dans le langage visuel. Il ne s'agit pas du tout d'interpeller, si on peut dire, le niveau manifeste des figures, des images, tout ça. C'est pas là que ça se passe, c'est pas là qu'il y a d'expressivité. Et c'est sûr que là, d'où ça vient? Ça vient un peu de, si on veut dire, de Lévi-Strauss, ça vient du structuralisme. Ça vient de cette idée, évidemment, qui a fait long jeu, évidemment, que c'est au niveau de la structure du langage, premièrement, et de la structure, donc, de l'œuvre, qui n'est pas apparente, qu'il faut aller chercher derrière la surface, on peut dire, derrière ce que Greenberg valorisait. C'est pas en surface que c'est l'œuvre, mais dans la structure de l'œuvre, dans la structure du langage, donc, qui vient de la linguistique. C'est dans la structure du langage qu'on va aller trouver l'expressivité réelle. Ce qui est exprimé s'exprime au niveau de la structure et non pas au niveau
de la figure
manifeste, du niveau manifeste. Donc, c'est Lévi-Strauss, c'est le structuralisme, c'est Piaget, ça, déjà, c'est mentionné, c'est la Gestalt, c'est tous les travaux dans les psychologies de la perception. La psychologie de la perception, qui est évidemment, pour moi, un impact encore considérable, puisqu'il va rendre compte de ce qui existe dans l'appréhension du langage visuel. Puis évidemment, je n'admets pas, les gens pensent qu'ils sont capables de comprendre le langage visuel, mais je pense qu'ils ne le comprennent pas, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai cette intuition naïve, vaguement, prophétique ou mégalomaniaque, mais je pense qu'aujourd'hui, en 1982, nous ne connaissons pas encore les structures du langage visuel. Nous ne connaissons pas la syntaxe du langage visuel. On voit comment ça fonctionne, le langage visuel. Et que nous avons jusqu'ici simplement projeté les structures du langage verbal sur le langage visuel.
Quand tu dis « nous », entends-tu…
toute la critique, toute l'esthétique.
Tu t'exclus. Toi, tu penses avoir des éléments de réponse.
Je prétendrais essayer… Je prendrais essayer de déterminer, mais je pense que ce n'est pas fait encore. Ce que j'appelle, moi, la sémiologie des arts visuels, c'est une hypothèse, donc il vient de Saussure, comme tu sais, Saussure disait que lui parlait du langage verbal, mais qu'il souhaitait qu'un jour on fasse la sémiologie des langages non-verbaux. Et d'après lui, la linguistique verbale ne serait qu'un des éléments à l'intérieur d'une sémiologie générale, et tous les signes verbaux, signes non-verbaux. Évidemment qu'avec Barthes, cela a été complètement récupéré, et lui, il a dit au contraire, les langages non-verbaux sont tous sous la dépendance des langages verbaux. Ce qui a fait que dans l'espace de 5 ans, Barthes s'est posé comme le pionnier initiateur de la sémiologie, qui déjà s'était fermé 5-6 ans après, il n'y a pas moyen de faire de sémiologie. Évidemment, il avait refusé de poser que les langages non-verbaux puissent avoir une structure différente de celle des langages verbaux. Il a posé que le sens du langage non-verbal devait être dépendant des structures des langages verbaux, ce qui, évidemment, a mené une impasse considérable.
Tout à fait prévisible dès le départ.
Ben, je ne sais pas si c'était prévisible. Enfin, c'était pas si prévisible parce que tout le monde a marché. Kristeva a marché, Plenet a marché, Damisch a marché, Marin a marché, tout ce qu'on appelle la sémiologie en France a marché dans cette hypothèse que l'on peut interpréter ce qui se passe dans le monde visuel à partir du langage verbal. Ça a marché jusqu'à un certain point, ça marche encore beaucoup, je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui poseraient que le langage verbal ayant une structure différente véhiculerait des messages différents, aurait une sémantique différente de celle du langage verbal. Et à ce moment-là, je disais qu'en 68, si on revient à cette date-là, c'est justement là ce qui s'est passé. Ça a été la grande, si on peut dire, réaction, mais d'une véhémence terrible, de toute la phonocentrie.
Qu'est-ce que tu entends, phonocentrie?
La phonocentrie, c'est l'hypothèse qui pose que le sens de tout événement doit être trouvé dans un langage verbal. C'est-à-dire que, à partir de, donc, simplement pour parler juste d'un point de repère, disons qu'en 67, notre ami Umberto Eco publiait l'œuvre ouverte, qui soulevait une espèce de réflexion sur l'œuvre informelle, hein, l'œuvre ouverte en musique, en peinture, en poésie, etc. et qu'il a posé son grand problème sémantique, qui est que l'on va trouver le sens de l'œuvre informelle dans les associations d'idées que cette œuvre peut inspirer. Évidemment, là, ça a été la digue a été ouverte. Parce que les associations d'idées, ou un peu comme disait Henschel, qu'on ne peut pas trouver le sens, on ne peut pas étudier le sens, et que le sens véritablement des structures linguistiques, on va les trouver dans les diverses disciplines humaines, ça a été la digue ouverte, donc, que l'on a projeté dans les œuvres visuelles les hypothèses et les ensembles sémantiques élaborés par un certain nombre de sciences humaines. Ça a été la grande, si on peut dire, la grande répression qui a été faite de tout le discours visuel, posant que ce discours visuel, d'une part, son sens ne pouvait se trouver que dans les discours verbaux ambiants, et que d'autre part, elle devait aussi doubler les discours verbaux ambiants. Ou qu'autrement, elle n'avait pas le droit d'exister. C'était un peu la répression de 1921 en Russie, évidemment, qu'on interdisait à la peinture de poursuivre son cheminement propre. En disant, la peinture ne peut pas se structurer comme langage, elle doit au contraire être soumise au développement des discours verbaux qui se font en sociologie, en psychanalyse, en anthropologie, dans tous les domaines des sciences humaines.
Mais on vit ça présentement en plein temps.
On le vit
et même les gens d'histoire de l'art.
Ça a commencé en 68.
C'est ça, mais même histoire de l'art.
C'est ça,
soit l'UQAM, soit l'UQAM, que ce soit l'Université de Montréal, c'est les débats qu'ils organisent, ils vont tout à fait dans ce sens-là.
Tout ce que je te dis, c'est que c'est devenu manifeste en 68. C'est ça, 68. C'est ça qu'on appelle la contestation. La contestation, dans le domaine des arts, c'est de vouloir restreindre et empêcher, interdire le développement des médiums non-verbaux en les assujettissant aux discours verbaux. Leur sens ne peut se trouver que dans les discours verbaux, et de ces discours verbaux, on va leur dire lequel ils vont prendre. Il ne faut pas se tromper. Ils vont prendre celui-là, ils vont prendre celui-là, ils vont prendre celui-là, puis ils ne prennent pas celui-là, puis ils ne font pas de l'anthropologie, puis ils ne font pas de l'archéologie, puis ils ne font pas de matériaux dialectiques, ils ne font pas ceci, on ne sera pas d'accord. Mais le discours visuel est complètement assujetti à tous les sens qui sont élaborés par les disciplines humaines, les sciences humaines. Donc, on nie, non seulement on nie, mais on voudrait interdire, parce que c'est encore plus beau, comme je te dis, comme était fait en 21, quand Lynn Cook a décidé qu'on ne faisait plus de peinture, corroboré, puis ensuite, on n'a pas commencé, c'est interdit de faire la peinture. C'est interdit de laisser ce médium poursuivre sa propre démarche dans la structuration d'un langage dont on ne sait pas où il va. Il faut au contraire qu'il soit assujetti aux sémantiques et aux intentions, aux besoins des discours, aux besoins de pouvoir, c'est bien sûr des discours, c'est plus une question de science, c'est une question de pouvoir à ce moment-là, un certain nombre de conclusions, entre parenthèses, auxquelles sera arrivé les discours verbaux. Évidemment, pour moi, c'était ça, c'est vraiment, mon livre arrive à un drôle de moment. À un moment où je posais, moi, qu'il s'agissait d'interroger le langage visuel, de savoir ce qu'il nous dit. Et dès ce moment-là, on peut dire, dans la plupart des pays du monde, on a dit, on ne veut pas savoir ça. On ne veut pas que cela se fasse. Il faut, au contraire, que les discours visuels se soumettent aux impératifs d'un certain nombre de disciplines. Et j'ai vu ça, moi, à Stockholm, où je suis allé en 69-70, je crois, au Congrès international de la critique d'art, devant le musée où j'étais, 69, on faisait du piquetage, on a fait venir les piqueteurs à l'intérieur pour discuter avec eux, et ils ne pouvaient pas admettre que les arts visuels puissent avoir un déroulement des hypothèses différentes de celles qu'ils avaient eux-mêmes, au point où ils ont dit, les mathématiques, on commence à en avoir assez besoin. On va interdire le développement des mathématiques s'il n'est pas compréhensible par tout le monde. Si ce qu'ils posent comme conception du monde ne correspond pas à ce que nous nous disons dans nos propres discours, forcément verbaux, biologiques ou verbaux, on va l'interdire. C'est-à-dire cette énorme répression qui s'est faite, c'est ça que j'appelle la phonocentrie, la proposition selon laquelle c'est le discours verbal qui a le fin mot tout ce que c'est que l'expérience, le sens de l'expérience dans tous les secteurs.
On dit que c'est dans la mesure où on est capable de communiquer une expérience par ses propres mots que ça a un sens. L'expérience aurait un sens.
Pas par... Ben, ce n'est que dans... Le communiquer, ils ne peuvent pas le communiquer. Ils ne disent pas communiquer. Parce qu'un tableau, ça ne peut pas se communiquer en mots. Ils ne gèrent rien. Là.
Tant mieux, je suppose. C'est ça qu'ils disaient, là.
Non, mais il disait que, ben, avant de dire ça, il faudrait dire qu'il pose que le sens du tableau peut être dit en mots.
C'est ça.
Mais s'il peut être dit en mots, pourquoi est-ce qu'il dit comme ça?
Pourquoi il est dit en tableau?
C'est vraiment ridicule. Pourquoi est-ce que ces gens-là, au lieu de faire des tableaux, pourquoi est-ce que ces gens-là ne disent pas ce qu'ils vont dire? Pourquoi est-ce qu'on a un langage aussi confus, si polysémique, où les personnes ne comprennent rien, qui fait qu'on est obligé, comme on fait à Québec 75, on met des affiches à côté, et on dit qu'est-ce qu'il y a dans le tableau?
On n'a pas fait ça,
mais...